Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y a plus de jeunesse, tiens, ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai regroupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes à moi tout seul.
Je viens d'entendre notre président à propos du délit de bande. Alors, tout jeune, d'après ce que j'ai compris, qui n'a pas commis de délit, sous le seul prétexte d'appartenir à une bande qui aurait mal agi, sera passible de 3 ans de prison. On ouvre là, une fois de plus, la porte à tous les abus, aux mesures liberticides, à la haine d'autrui. Tous ces concepts que Sarkozy avance en toute impunité ne sont que le reflet de jugements arbitraires et d'un contrôle social de plus en plus intrusif. Tocqueville disait « Quand le peuple ne réclamera plus rien d'autre que l'argent et la sécurité, c'est qu'il aura intériorisé sa condition d'esclave. » Je veux simplement dire « Réveillons-nous ».
Salut Daniel, salut toute l'équipe, Nicolas de la Manche. Voilà, je viens d'entendre aux infos que Sarkozy, avec tous ses copains, là, était en train de préparer une loi pour toutes les personnes se présentant comme étant en bande. Voilà, je me disais que peut-être que ça pourrait profiter à Sarkozy et à tous ses petits amis, voilà, hein, toute leur petite bande de copains là qui nous roulent dans la farine tous les jours. Eh ben, je comptais 2009 plus 3 égale 2012, et ben, on serait tranquille jusqu'au bout, quoi. Voilà, ben, c'est une solution à étudier.
Allô, monsieur Mermé, bonjour, Joël à l'appareil. Je vous téléphone au sujet de la conférence d'Urban à Genève. Alors, vous allez nous parler un petit peu de ce sujet. Vous nous avez parlé des lobbies pro-israéliens. Parlez-nous un peu des lobbies arabo-musulmans, de l'Iran et tout ce qui s'ensuit. Je vous fais confiance. Je sais que vous êtes impartial, monsieur Mermé. J'espère vous entendre bientôt. À bientôt. Merci.
Le titre de Libé ce matin, un antisémite à l'ONU. Il ne s'agit pas de Hugo Chavez, mais de Mahmoud Ahmadinejad. Alors, 3 remarques pour nuancer le propos de ce grand journal antifasciste. D'abord, si M. Ahmadinejad était antisémite, la communauté juive iranienne aurait subi des persécutions. Heureusement, il n'en est rien. D'ailleurs, les citoyens iraniens de religion juive sont toujours représentés au Parlement iranien. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'Ahmadinejad est un antisioniste radical. Il faudrait peut-être une émission pour rappeler la distinction entre judéophobie, antisémitisme et antisionisme. Ensuite, nos médias nous assurent que ce discours d'Ahmadinejad a soulevé un tollé, une condamnation unanime. En Occident, c'est certain, mais qu'en est-il du reste du monde? Apparemment, le tiers-monde aurait applaudi le discours du président iranien, parce que celui-ci aurait dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, en particulier depuis le massacre de Gaza. Et enfin, il serait intéressant d'interroger M. Jean Ziegler, ou même Pascal Boniface, sur le fossé qui se creuse chaque jour entre un Occident autiste et donneur de leçons et le reste du monde. Si M. Ahmadinejad avait mis le tiers-monde dans sa poche et l'ONU de son côté, il aurait gagné le match.
Non, chers AMG, nous ne prenons pas la défense du cynique et sinistre président iranien, mais il nous semble utile d'entendre et de faire entendre les bémols lorsque le cœur semble unanime. Aujourd'hui, toujours à Boston, toujours dans le Massachusetts, nous continuons après une visite à un certain Noam Chomsky, avec qui hier nous avons parlé de Bertrand Russell, au sujet du tribunal Russell qui entend juger symboliquement les crimes de guerre et notamment la question de Gaza. Et Chomsky disait, oui, mais qui sommes-nous au juste pour le juger, etc. Éternelle question que nous avions abordée en septembre 2007 avec Pierre Hazan, qui publiait alors un livre, Juger la guerre, juger l'histoire, la capacité, autrement dit, des sociétés à, par la justice, tenter de guérir le vaste monde. Vaste problème, tant cette justice internationale a plutôt tendance à donner des leçons qu'à rendre véritablement la justice, car sinon, Bush ou Cheney auraient de quoi s'inquiéter. C'est notre sujet du jour, vous l'avez compris. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40
salut Daniel. En écoutant ton émission sur les cabinets de consulting, je me suis dit qu'on pourrait mettre en lumière les conseils de surveillance et autres conseils d'administration des grands groupes qui font appel à eux. Ce sont eux qui décident de la stratégie générale à adopter. Alors prenons au hasard le groupe Carrefour. 500 000 salariés dans le monde entier. C'est le premier employeur privé en France et le 10e mondial. Son conseil d'administration réunit 12 gros actionnaires. Sur son site, le syndicat CFDT Carrefour écrit ceci. Ce qui est frappant dans ce conseil d'administration, c'est que 11 membres sur 12 ne viennent pas de la grande distribution. Mieux, aucun n'y a été de loin ou de près associé. Et effectivement, tous sont des banquiers ou des financiers liés aux banques BNP Paribas, Société Générale, Rothschild, et on y trouve même Thierry Breton, l'ex-ministre des Finances. Alors ce petit groupe est conduit par Bernard Arnault, l'industriel du luxe, qui est propriétaire du journal Les Échos et de Radio Classique, et qui a pris le pouvoir par surprise en 2008 en s'alliant avec un fonds d'investissement américain, Colodi Capital. Alors après avoir écarté la famille Allais, qui fit l'histoire et le succès du groupe, il fait virer le directeur général le 1er janvier 2009 et le remplace par un grand manager venu de Nestlé. Et ce nouveau directeur annonce, dès le 11 mars 2009, un plan d'économie de 500 millions d'euros sur le fonctionnement, et donc sur la masse salariale. Alors je suppose que les cabinets de consulting se sont disputés pour obtenir ce marché.
Bonjour Daniel, c'est Christine à l'appareil. J'appelle parce que j'entendais ce matin donc sur France Inter Madame Parisot qui plaignait le sort des femmes de patrons séquestrées. Et on entendait donc une femme de patron séquestrée qui disait à quel point c'était dur d'être loin de son homme et de sentir son homme menacé. Et je voudrais dire à quel point je compatis avec cette dame, car moi j'ai eu mon homme mis en centre de rétention pendant une semaine et j'ai compris l'extrême douleur d'être séparé brutalement de l'être qu'on aime. Cette dame disait aussi que c'était dur parce que son homme subissait des insultes et des menaces. Et là aussi, je dis oui, je sais, je comprends, car mon homme a subi des menaces racistes et autres déliciosités de la part de ses geôliers. Y compris des interrogatoires à 2h du matin, on ne comprend pas pourquoi, puisque c'était juste un problème de papier. Voilà, donc on sent que de plus en plus, il y a des Frances différentes, il y a des... Je ne sais pas si c'est des castes en France. Bon, en tout cas, la dame du patron, si jamais elle veut proposer à son patron de donner un peu de travail et des papiers à mon homme, nous on est preneurs, hein, du moment qu'on peut rester ensemble et s'aimer tranquillement. Femmes de toutes les conditions sociales, unissez-vous pour l'amour de vos hommes. Peut-être que ça pourrait être un joli message d'espoir pour la France. À bientôt Daniel, au revoir.
C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Jugez la guerre, jugez l'histoire. Pierre Hazan.
Flight number 2, arriving from New York.
Name of the French Republic, Monsieur de Menton, closes counts 3 and 4, the final charges of the indictment.
Au nom de la République française, Monsieur de Menton présente les derniers chefs d'accusation. Tous les accusés ont commis des crimes contre l'humanité, et notamment se sont rendus coupables d'assassinats, de tortures et de persécutions contre les opposants au parti nazi, ainsi que d'asservissement, de déportation et d'exploitation des populations civiles. En outre, ils sont responsables d'avoir développé des programmes inhumains dirigés contre des vieillards et des malades mentaux, et d'avoir utilisé des êtres humains comme cobayes pour de prétendues expérimentations scientifiques. Petit à petit, les nazis approchaient de ce qu'ils appelèrent la solution finale, l'extermination totale des Juifs d'Europe. Le processus est ainsi décrit par un témoin. Nous avions deux médecins SS à Auschwitz qui examinaient les nouveaux arrivants. Les prisonniers passaient devant l'un de ces médecins qui prenait alors très vite une décision. Ceux qui pouvaient travailler étaient envoyés au camp, les autres étaient immédiatement envoyés au camp d'extermination. Les enfants en bas âge étaient invariablement exterminés, car en raison de leur âge, ils étaient incapables de travailler. Tuer les gens dans les chambres à gaz prenait de 3 à 15 minutes, suivant les conditions climatiques. Nous savions que tout le monde était mort lorsque nous n'entendions plus de cris. Nous attendions en général une demi-heure avant d'ouvrir les portes et de sortir les corps.
Comment une société se reconstruit après guerre, massacre et crimes de masse pendant des siècles? À ces drames, on a répondu par le silence et l'amnistie. Et puis, il y a eu Nuremberg en 1945. Et puis, là, le silence a fait place à la parole qui est devenue, pense-t-on, le moyen de guérir les brûlures et les blessures de l'histoire. Et puis, il y a eu plus récemment les tribunaux, les cours pénales internationales, etc. Et c'est ce que Pierre Hazan appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle dont il fait l'histoire, en fait, dans ce bouquin « Juger la guerre, juger l'histoire ». L'histoire de cette justice transitionnelle qui commence en 89 et qui s'achève en 2001. Le savions-nous ? Qui le savait ? Eh bien voilà, c'est le bilan de cette justice transitionnelle qui fait l'objet de ce bouquin et dont nous allons parler ensemble. Bonjour Pierre Hazan.
Bonjour.
Bonjour. Alors, justice transitionnelle.
Justice transitionnelle, c'est une expression qui a été formalisée ou inventée au début des années 90, lorsque finalement des politologues sont dit il y a une centaine de pays qui sont en train de passer d'un régime ou de répression ou de dictature militaire à un processus de démocratie. En Amérique latine, c'est flagrant dès les années 80, mais aussi en Afrique. Et donc, il y a dans ces années de l'après-chute du mur de Berlin une sorte d'espoir extrêmement fort. Il y a la rhétorique des droits de l'homme, il y a le multiculturalisme, il y a les Nations Unies qui vivent leur printemps. Et tout à coup, les gens s'imaginent qu'il y a l'histoire recommence à avancer après la période de gel de la guerre froide et qu'elle va vers le progrès moral. Et donc la justice transitionnelle, c'est ce moment du passage des sociétés répressives à des sociétés en route vers une nouvelle aube, celle de la démocratie. En tout cas, c'était l'espoir porté au début des années 90.
Alors, l'espoir porté au début des années 90, on va voir à travers des exemples, parce que votre bouquin est construit sur une série d'exemples, ou quasiment de reportages, on n'oublie pas que vous étiez journaliste, et vous dites ça finit en 2001. Pourquoi ça finit en 2001 ?
Ça finit pas en 2001. Ce qui se passe, c'est que pendant 12 ans, il y a eu une sorte de printemps de la justice transitionnelle. Pendant toutes ces périodes-là, il y a eu tout à coup, on a cru, effectivement, il y a eu une sorte d'utopie de la justice internationale. D'abord, il y a eu la création des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Il y a eu la Cour pénale internationale. Il y a eu l'inculpation pour la première fois d'un chef d'État en exercice, Milosevic. Il y a eu la compétence universelle où d'autres chefs d'État ont été inculpés. Il y a eu les commissions vérité, la plus célèbre, celle d'Afrique du Sud, créée par Nelson Mandela et menée par l'archevêque Desmond Tutu. Et donc, en l'espace de 10 ans, vous avez une sorte de transformation de l'utopie. On est en quelque sorte passé d'une utopie humanitaire des années 80 à une utopie autour de la justice internationale des années 90. Puis, patatras, 2001, l'effondrement des tours jumelles de New York et cet espoir de la justice transitionnelle est encore en quelque sorte mis en doute, mis en cause ou ébréché effectivement par le paradigme de sécuritaire impulsé par le président américain, le président Bush. Ceci dit, la justice transitionnelle continue. L'opinion publique n'est plus autant mobilisée que par le passé, mais ceci dit, les commissions vérité continuent à être créées, donc ça continue de bouger.
Alors, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du crime, c'est l'histoire du massacre, c'est l'histoire du sang, etc. Ce que vous nous dites, c'est que jusque-là, jusqu'à Nuremberg, parce que votre histoire, enfin cette histoire commence à Nuremberg, cette histoire, c'est-à-dire celle du moment où la justice se mêle de l'histoire, la justice prétend réparer. Jusque-là, on faisait quoi ? C'était le silence, on se taisait, puis on laissait les choses en l'état, où il y avait des amnisties qui étaient décidées. Comment ça se passait ?
Prenez le mot amnistie, c'est très intéressant. Il vient du grec, et il a une racine commune avec l'amnésie. Donc, si vous voulez, pendant très très longtemps, traditionnellement, l'oubli et la reconstruction et la réconciliation allaient pratiquement de soi. D'une manière moderne, le président de Gaulle pour justifier l'interdiction du chagrin de la pitié sur les antennes de la télévision française, dit « Notre pays n'a pas besoin de vérité, il a besoin d'unité nationale et d'espoir ». Si vous voulez, pendant les décennies de guerre froide, au nom de l'unité nationale, au nom de la mobilisation, au nom de l'affrontement Est-Ouest, l'idée qui prévaut dans les processus de réconciliation, c'est qu'il faut mieux se taire. C'est que c'est le silence qui cicatrise les plaies de la nation. Et puis survient 1989, survient la montée en puissance de la rhétorique des droits de l'homme, et puis il y a une sorte de renversement du discours. Et qu'est-ce qu'on va dire maintenant? La nouvelle doxa, la nouvelle parole autorisée, dit exactement l'opposé. Que pour qu'il y ait une véritable réconciliation, il faut passer par la parole, il faut passer par le dire, il faut passer par la vérité.
L'étranger maintenant, avec d'abord la situation en Bosnie. 55 000 personnes sont toujours bloquées à Mostar. Elles sont assiégées par les forces croates de Bosnie.
Les accusations du président bosniaque sur la campagne de nettoyage ethnique lancée par les Croates dans la région de Mostar, au sud de la Bosnie-Herzégovine, sont confirmées par le Haut Commissariat aux réfugiés.
18 août 93, France 3.
15 000 musulmans, pour la plupart en âge de porter les armes, sont internés dans ces camps à la périphérie de Mostar, dans les conditions que l'on imagine. Après Sarajevo, Mostar est devenue elle aussi ville martyre, assiégée par les forces croates depuis mai dernier. Ville fantôme également, d'où sont chassés quotidiennement quelque 2 à 3 000 musulmans, dans le but pour les Croates de créer un territoire ethniquement pur.
Alors, votre bouquin, Pierre Hazan, commence sur une scène assez invraisemblable, terrible. On est en 1993, vous êtes à Mostar, vous êtes journaliste à l'époque?
Oui, tout à fait.
Et vous êtes avec le CICR, avec la Croix-Rouge. Et exceptionnellement, la Croix-Rouge a accepté un journaliste et vous participez à une sélection humaine. Évidemment, c'est pas sans nous renvoyer aux scènes emblématiques et traumatisantes, évidemment, de notre histoire, qui est l'image du tri sur la rampe d'Auschwitz. Donc, c'était pas Auschwitz, c'était Mostar, c'était quand même pas rien. Et vous participez à une sélection humaine.
Il y a à ce moment-là une guerre dans la guerre en Bosnie-Herzégovine. Les Croates et les musulmans s'affrontent alors qu'ils sont alliés quelques kilomètres plus loin. Et il y a un camp dans lequel un certain nombre de musulmans sont enfermés dans des conditions extrêmement dures. Et je pèse mes mots. Les conditions sont si dures finalement qu'un ensemble de pays font pression sur la Croatie, qui fait elle-même pression sur ses partisans de Herceg-Bosna, la partie croate en Bosnie-Herzégovine, pour libérer un certain nombre de ses prisonniers. Et il se fait que, par le concours des circonstances, je suis là, j'accompagne le CICR, le Comité International de la Croix-Rouge. Il y a 1500 prisonniers qui sont terriblement affaiblis par les conditions des tensions, et certains vraiment sont dans des états très précaires. Et l'ordre est donné, enfin disons, à la délégation du CICR de libérer 500 des 1500 prisonniers. Et donc, comme je fais partie
Mais
de...
Mais sur quels critères?
Alors, justement, c'est à la délégation de choisir les critères. Alors, le médecin, évidemment, comme nous tous, a en tête ces images terribles de Mengele. Évidemment, nous, on fait l'opposé. On est dans un processus d'élargissement, de libération. Mais quand même, il y a une sorte de difficulté fondamentale, presque, de se trouver placé dans ce rôle qui est terriblement inconfortable. Et le médecin, finalement, dit, on va, d'une part, évidemment, identifier les plus faibles. D'une part, les malades, mais aussi les plus faibles. Comment identifier les plus faibles? Alors, il a l'idée d'utiliser un index quantitatif qui s'appelle le Body Mass Index en anglais, l'indice de masse corporelle, je crois, en français. Et donc, pendant quelques jours, on va sortir les 1500 prisonniers dans la cour de ce camp de détention, alors que le front est à une dizaine de kilomètres et que la tension est à son maximum. Et on va, avec des balances et des mètres, on va mesurer et peser chaque prisonnier, les 1500. J'avoue que ces images me sont restées très très longtemps en tête. Et puis, sur la base, effectivement, d'un ratio mathématique, on va pouvoir isoler les plus faibles. S'en suivra ensuite une négociation très complexe, parce que nous, on pensait avoir isolé les plus faibles, et c'est ce qu'on avait effectivement fait, si vous voulez, du point de vue presque médical ou physiologique. Mais le chef de la prison, lui, a en tête une liste de prisonniers qui n'a aucune valeur, parce qu'ils n'ont pas de famille à l'étranger, parce qu'il sait qu'ils sont pauvres. N'oubliez pas que c'est une guerre civile, que tout ces gens-là ont grandi ensemble, donc ils se connaissent tous. Donc il y a intérêt à libérer ceux qui n'ont pas de valeur, ceux dont la famille ne peut pas négocier quelques milliers de Deutschmark pour obtenir leur libération. Donc dans ce camp se crée ensuite une négociation dans la négociation, et donc ça sera un processus, je pense, difficile et douloureux.
Ça finit comment? Les 1500, il y en a 500 qui seront libérés, et les 1000 autres?
En fait, ce qui va se passer, c'est il y aura de multiples rebondissements, mais finalement, la libération des 500 sera retardée, et finalement, la pression internationale sera telle que des semaines plus tard, tous finiront par être libérés.
Dès qu'on évoque ces scènes et ces histoires, et qu'on pense à la justice, tout de suite, on découvre que la justice ne peut pas être juste. C'est-à-dire que si un crime est commis demain, personne sera arrêté, sera jugé, mais il y aura une cour d'assises, il y aura une enquête, il y aura tout un processus pour arriver éventuellement à une condamnation, à une peine, etc. Mais lorsqu'on se trouve dans ce que vous décrivez, et puis évidemment, le premier exemple, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale, on sait très bien que la justice ne peut pas être juste dans ce sens que je viens d'indiquer. C'est-à-dire, c'est ce que vous appelez là la justice transitionnelle.
C'est-à-dire que le droit, effectivement, est toujours enveloppé par le politique. Il y a toujours des rapports de force, il y a toujours des stratégies des États, il y a toujours des tensions qui se jouent, qui se nouent. Et c'est vrai que la justice, ce qu'on appelle la justice, c'est une forme de droit qui parfois parvient effectivement à avancer. Et quand ça parvient effectivement à avancer, lorsque cette parole parvient à rebondir en dehors d'une cour de justice et à s'exprimer au sein d'une société, alors peut-être qu'une société peut avancer, peut regarder son passé d'une autre manière, et ça peut fluidifier les rapports au sein d'une société. Regardez ce qui s'est passé en France, il a fallu des dizaines d'années finalement pour qu'un regard plus équilibré soit porté sur l'attitude de la France durant la Deuxième Guerre mondiale, et la France n'est absolument pas unique.
Alors, vous commencez cette histoire de la justice et de l'histoire, hein, ce rapport entre la justice et l'histoire avec le tribunal de Nuremberg. Ça a été la justice des vainqueurs quand même. Et ce sont les vainqueurs qui ont jugé et ce sont les vainqueurs qui ont écrit l'histoire, qui ont écrit cette page.
Oui, totalement. Et ce qui est extrêmement intéressant, enfin, beaucoup de choses sont fascinantes à Nuremberg, mais l'un des points fascinants, c'est que très vite, les Américains se rendent compte de l'impact presque scénographique, dramatique, dramaturgique de cette justice internationale. Ils la construisent même comme un théâtre. Le procureur veut frapper l'opinion publique internationale. Et donc, c'est pour ça qu'il fait appel très rapidement aux images qu'a tourné John Ford sur les camps de la mort et les camps de concentration pour bien imprimer disons, le nouvel ordre international qui doit surgir en quelque sorte de cet acte symbolique qu'est le tribunal de Nuremberg.
La défense commence. Chaque accusé a personnellement choisi son ou ses avocats. Kaltenbrunner fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Vous êtes accusé d'avoir créé Mauthausen, d'avoir inspecté et visité ce camp régulièrement. Le témoin, M. Riegel, a témoigné vous avoir vu dans ce camp et même vous avoir vu inspecter les chambres à gaz alors que ces chambres à gaz étaient en opération. Ce témoignage est faux. Chaque camp de concentration dont je ne sais absolument rien a été créé par Himmler. C'est enfin au tour de Göring d'être interrogé. À la fin de la réunion, vous avez utilisé ces mots, n'est-ce pas? Les juifs allemands doivent payer comme sanction 1 milliard de marks, ainsi ces cochons ne pourront plus commettre de crimes. Oui. Continuez-vous d'affirmer que ni vous ni Hitler n'étiez au courant de la politique menée pour exterminer les juifs? J'ai déjà dit que je ne savais même pas approximativement à quel degré cela s'était passé. Vous ne saviez pas à quel degré, mais vous saviez qu'il existait une politique qui tendait à l'extermination des Juifs. Non, pas à la liquidation des Juifs. Je savais seulement que certains crimes avaient été commis.
Mais alors, ce qui va se passer à Nuremberg, c'est que les Américains vont libérer beaucoup de prisonniers de guerre, l'immense majorité des criminels nazis.
C'est-à-dire
qu'il y en a quelques-uns qui sont condamnés,
et beaucoup seront libérés.
Disons, ce qui marque la fin de Nuremberg, c'est les débuts de la guerre froide. Les tribunaux de Nuremberg auraient dû continuer, en fait. Et ils auraient dû continuer par un grand procès sur les industriels nazis. Mais les tensions est-ouest sont telles à ce moment-là que finalement le tribunal s'interrompt. Puis viennent les années 50, donc des années d'extrême tension entre l'Union soviétique et les pays occidentaux. Et évidemment, les Américains en premier, mais aussi les Britanniques, veulent avoir l'Allemagne, cette fois-ci, du bon côté. Et l'Allemagne, en quelque sorte, veut négocier cette position. À ce moment-là, la société allemande a l'impression d'avoir payé lourdement le prix de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les bombardements massifs sur les grandes villes allemandes.
Dont Dresde, le plus célèbre.
Et les Allemands tiennent, enfin disons le chancelier Adenauer, qui perçoit très finement l'état de son opinion publique, dit ceci aux Américains. Nous sommes prêts à combattre de votre côté si de votre côté vous faites un geste. Et ce geste, c'est la libération de la quasi-totalité des prisonniers nazis. Et c'est ce qui va survenir dans les années 50. Et si finalement quelques-uns vont rester en prison, et notamment ceux condamnés à Nuremberg, c'est sans doute parce que l'Union soviétique aurait dû donner son aval pour leur libération, ce qui était évidemment invraisemblable dans le climat de la guerre froide.
Mais là, c'est une justice de vainqueur, on le disait, et le vainqueur devenu juge se trouve dispensé d'être poursuivi pour ses propres crimes contre l'humanité qu'il a pu commettre ou qu'il est en train de commettre.
Exactement. À ce moment-là, l'Union soviétique elle-même commet des crimes extrêmement significatifs, mais la France aussi. Il y a les massacres de Sétif qui commencent le jour même de la libération. Donc, si vous voulez, Nuremberg est donc un processus complexe. D'un certain côté, effectivement, il met en branle un long processus, disons, de revendication, de justice internationale, mais aussi qui va conduire les peuples à exiger de plus en plus de lumière sur le passé. D'un autre côté aussi, se met en place les germes d'une compétition victimaire qui ne se fera sentir que peut-être un demi-siècle plus tard. Mais c'est vrai que c'est quelque part assez choquant que le génocide des Juifs ait effectivement instruit, et encore de manière très limitée à Nuremberg, mais en fait il en est néanmoins question, alors que les Français, notamment à Sétif, commettent des crimes évidemment pas de la même ampleur, il s'agit pas de comparer ce qui ne l'est pas, mais quand même il y a une répression forte, les crimes coloniaux continuent d'être commis, notamment plus tard à Madagascar, l'Union soviétique commet des crimes.
Ils ne seront jamais jugés.
Les États-Unis ont en gros une politique d'apartheid dans le sud des États-Unis, avec toutes les lois raciales qui prévalent à l'époque. Donc on voit bien que c'est une sorte de justice balbutiante et très imparfaite qui se met en marche.
Et là, vous revenez un peu quand même sur le passé. Vous évoquez le massacre peu connu, le massacre des Herero, qui est une des ethnies de l'actuelle Namibie. Et vous citez cette déclaration du général von Trotta d'octobre 1904. Cette déclaration qui était un ordre d'extermination, libellé comme tel, où il disait ceci. Moi, le grand général des troupes allemandes, envoie la présente au peuple Herero. Tous les Herero doivent quitter ce pays. Tout Herero trouvé à l'intérieur des frontières allemandes, la Namibie étant une colonie allemande, avec ou sans fusil, avec ou sans bétail, sera fusillé. Je n'accepterai plus ni femmes ni enfants, je les refoulerai vers leur peuple, je les fusillerai, telle est ma décision pour le peuple Herero. C'est la maquette du génocide des Juifs, entre autres.
Et, simplement, un souvenir personnel. Il y a une vingtaine d'années, comme journaliste, j'étais en Namibie. Et la principale rue s'appelait Kaiserstrasse. Il y avait une autre rue qui s'appelait Göringstrasse. Et Göringstrasse, c'était le père du célèbre Göring de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, il y a sans doute effectivement un lien entre les processus, disons, d'extermination qui ont d'abord été utilisés contre des peuples autochtones et puis des peuples qui étaient colonisés à l'époque, puis qui a été effectivement appliqué en Europe.
Die französische Polizei hatte auch Kinder erfasst. Ich wurde von Paris aus angefragt, was mit diesen Kindern nunmehr zu geschehen hätte.
Trait de caractère, très actif, bon camarade, ambitieux, fraîcheur d'esprit prononcée. Connaissances et formation, très bonne dans sa spécialité. Dons et capacités, négocier, parler en public, organiser. Impression générale, personne énergique et impulsive, possédant des capacités pour administrer son activité. Spécialiste reconnu dans son domaine. Fidélité à l'égard des conceptions nationales socialistes, inconditionnelle.
On continue, Pierre Hazan, avec votre bouquin « Juger la guerre, juger l'histoire ». Et on arrive en 1961, c'est le procès Eichmann, célèbre presque tout de suite quand on pense à 1961, procès Eichmann, on pense au fameux texte de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Quel était le but de ce procès? Quelles étaient les intentions des autorités israéliennes de l'époque?
À l'époque, Ben Gurion est premier ministre israélien. Et lorsque les services secrets lui disent qu'il est possible de capturer l'un des ingénieurs de la solution finale, il donne bien évidemment son accord. Et très rapidement, je crois qu'il imagine plusieurs buts à ce procès. Il y a évidemment la volonté de châtier un odieux criminel, mais il y a aussi sans doute une vision politique qui va au-delà de ça. D'une part, celui de solidifier l'unité nationale israélienne, qui est à ce moment-là en tension entre juifs originaires d'Europe et juifs originaires plutôt d'Orient ou du Moyen-Orient. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est de donner une légitimité plus forte à l'État d'Israël. Certes, l'État hébreu a été reconnu par une résolution des Nations Unies, mais énormément de pays du tiers-monde ne reconnaissent pas l'État hébreu, sans parler de ses voisins, naturellement. Donc, il s'agit, en quelque sorte, d'une part, d'asseoir la légitimité de l'État hébreu de manière beaucoup plus forte vis-à-vis du monde arabe qui met en avant, lui, la souffrance palestinienne. Et là, il s'agit de mettre la souffrance juive. Et puis, deuxièmement, face à l'ensemble du monde, de montrer effectivement le droit à l'existence d'Israël à travers aussi le rappel du génocide commis par les nazis.
Là, vous évoquez la souffrance palestinienne, la souffrance des Arabes palestiniens. Et là, on est déjà dans la concurrence des victimes.
Effectivement, c'est-à-dire que depuis des temps immémoriaux, se positionner comme victime, c'est se mettre quelque part du côté du bien. Et je crois que ce processus s'est en quelque sorte renforcé après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai pour tous les acteurs concernés. C'est-à-dire que Israël s'est aussi bâti sur la mémoire du génocide des Juifs, un terme qui sera utilisé beaucoup, c'est celui de Shoah. Et les Palestiniens, eux, vont mettre en avant ce qu'ils appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Et entre la Nakba et la Shoah, il va y avoir une concurrence victimaire qui continue jusqu'à ce jour, d'une certaine manière. Et à travers ça, se jouent des enjeux politiques. À travers des enjeux de mémoire, se joue une manière de se concevoir au monde, une manière de se positionner au monde, et une manière de marquer sa légitimité.
Alors, ce qui sert de référence à toute cette période, et ce qui donne du sens à ce que vous appelez la justice transitionnelle, c'est évidemment le cas de l'Afrique du Sud.
Le cas de l'Afrique du Sud est totalement passionnant parce que très vite, Mandela au début et l'ANC au début voulaient des procès. Ils voulaient des procès parce que...
Au début, ce que vous appelez le début, c'est l'abolition de l'apartheid.
Oui, exactement. Ils voulaient des procès pour punir les dirigeants et les exécutants d'une politique raciste qui avait conduit à la mort de centaines et de milliers de personnes. Donc, l'ANC voulait des procès et les généraux sud-africains absolument pas. Et ont menacé Mandela d'un bain de sang. Alors, finalement, au terme d'une tractation complexe, ils vont se mettre d'accord. Et ils vont faire un deal, un marché. Et le marché, c'est la justice contre la vérité. Si vous révélez tout, eh bien, vous pourrez être gracié. C'est ça le deal, en fait. Et l'intelligence de Mandela et de Tutu, ça ne sera...
Desmond Tutu, l'archevêque.
L'archevêque sera de ne pas procéder comme les latino-américains qui avaient lancé les premières commissions vérité. Les sud-africains vont faire, en quelque sorte, un spectacle social au sein de la société. C'est-à-dire qu'ils vont faire témoigner 20 000 personnes publiquement, ce que n'avaient pas fait les Argentins et les Chiliens.
Les victimes ou les bourreaux?
Les victimes, les 20 000 victimes et des centaines de bourreaux. C'est retransmis à la télévision, tout le monde en parle. Donc, si vous voulez, l'effet est extrêmement fort au sein d'une part de la société sud-africaine et même au-delà de ses frontières. Ça frappe les esprits. Et le discours que tient Tutu est passionnant parce que il va renverser l'approche traditionnelle. Jusque-là, les Sud-Américains, lorsqu'ils mettaient en avant, ils essayaient de mettre en avant les commissions vérité, ils présentaient celles-ci comme le parent pauvre des tribunaux en disant vu la force de l'armée, vu les risques d'un coup d'État, on peut pas faire des processus judiciaires. Donc on va faire autre chose, plus limité. Tutu arrive, donc Desmond Tutu arrive, et renverse ce discours. Et il dit, on va produire une vérité beaucoup plus efficace que n'importe quel tribunal. Puisque, quelque sorte, conditionner l'amnistie à l'expression de toute la vérité. Donc les gens vont parler, les assassins vont parler, et le fait de révéler leurs secrets va permettre aux victimes de se réapproprier leur histoire beaucoup plus complètement. Et donc ça va permettre finalement à la société, à la nation sud-africaine, de renaître sur de nouvelles bases. Et c'est comme ça, en quelque sorte symboliquement, qu'est née la nation arc-en-ciel. C'est à partir de cette ingénierie sociale.
Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est une jolie histoire arc-en-ciel avec...
Écoutez, je crois que c'est une histoire complexe, c'est-à-dire que des gens ont voulu en faire une sorte de roman à l'eau de rose. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement intéressant, parce qu'il y avait ce marché, et aujourd'hui se pose la question pour l'Afrique du Sud de que faire des gens qui n'ont pas voulu témoigner, parce qu'eux sont toujours punissables. Et que faire des gens qui ont témoigné mais qui n'ont pas dit toute la vérité. Au sein de la commission vérité, il y avait un groupe qui était chargé de donner des amnisties. Si ma mémoire est bonne, un peu plus de milliers de personnes, d'anciens criminels, ont obtenu une amnistie totale. Mais il y en a 5000 autres qui ne l'ont pas eu. Donc se pose effectivement aujourd'hui la question de que faire avec ces gens-là. Faut-il les poursuivre judiciairement? Faut-il faire de nouveaux procès? Est-ce qu'on va recommencer à ouvrir cette page-là? Est-ce que ça vaut la peine? Et donc il y a un fort débat autour de ces questions.
Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
Autrefois, les gachacha, c'était des petits tribunaux de campagne, de paysans, pour régler des petites affaires, des affaires de terre, des affaires de vaches, des petites affaires de voisinage. Or, l'idée a été d'étendre la compétence des gachacha aux affaires liées au génocide.
Et le gachacha a été créé pour que ce soit une des solutions du problème du génocide qui est lié au Rwanda. Ça vise à unir toute la population et ceux qui sont entrés n'auront pas peur de dire ce qu'ils ont vu. Entrés, ce n'est pas comme ça diffère de gachacha de l'autre fois puisqu'ils n'avaient pas l'intention de punir. Mais pour aujourd'hui, on doit punir et pour unir encore la population.
Punir pour unir.
Punir pour unir. Punir ceux qui ont trempé dans le génocide et maintenant unir toute la population puisque c'est eux-mêmes qui vont juger le gachacha. Et comme ça, entrés, qu'il y ait une union entre eux.
Tout le monde se lève, le président vient de demander aux gens de se lever. Alors, il y a une chose que vous évoquez rapidement, c'est évidemment le Rwanda, qui est un casse-tête terrible. La situation dépasse l'entendement en matière de justice, puisqu'on sait que les victimes, on avance toujours des chiffres invérifiés jusque-là, de 800 000 victimes au cours de ce génocide de 1994. Du côté des bourreaux, entre guillemets, on ne sait pas non plus leur nombre, mais on sait que c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont participé, qui ont tué, qui ont massacré, parfois quelques-uns, parfois beaucoup de monde, etc. On est dans l'horreur absolue. Mais comment juger tout ça? En tous les cas, c'est la première fois qu'on juge, pour ce qui concerne ce cycle des massacres au Rwanda, mais l'entendement, l'intelligence, l'esprit est complètement dérouté par cette masse d'assassins, par cette masse de criminels. Alors on a le tribunal pénal international d'Arusha, et puis à l'intérieur du pays, on essaye une justice qu'on appelle les gachacha, qui sont des tribunaux populaires, qui tout d'un coup sont censés pouvoir régler des problèmes de crimes de masse de cette façon. J'ai aucune solution, j'ai aucune leçon, aucune solution, aucune idée de ce que pourrait être une justice pour le Rwanda. Et vous ?
Écoutez, effectivement, je veux dire que la monstruosité des crimes et le fait que ça a été un crime de masse commis de manière massive pose des questions insolubles. Alors, effectivement, la communauté internationale, les Nations Unies, avec une certaine, pour laver en quelque sorte leur mauvaise conscience, puisqu'elles ne sont pas intervenues durant le génocide, ce génocide en direct, ont créé le tribunal international d'Arusha, qui a coûté peut-être 500 millions de dollars aujourd'hui, et qui a dû juger quelques dizaines de personnes, mais au grand maximum, et quelques petites dizaines de personnes. Et à côté de ça, effectivement, il y a eu les tribunaux rwandais qui ont fonctionné un petit peu, et il y a eu aussi une libération, après souvent une dizaine d'années de prison, de quelques dizaines de milliers de génocidaires. Et donc, à travers ces gachachas, ce processus disons, de justice traditionnelle, mais c'était plutôt lorsqu'on on avait des problèmes de clôture avec un voisin, que le gouvernement actuel essayait de réinventer, de moderniser cette justice paysanne pour l'appliquer à ce génocide. Alors, on verra bien quel résultat cette libération de la parole parviendra, sachant par ailleurs que le gouvernement qui met en place ces gachachas lui-même ne respecte pas toujours les droits de l'homme, ce qui pose aussi un problème.
Et risquerait, si ces tribunaux fonctionnaient, notamment le tribunal pénal d'Arusha, de se retrouver lui-même dans la logique d'un tribunal comme celui-là.
C'est-à-dire que lorsque le tribunal pénal international pour le Rwanda a été créé, il avait un double mandat. D'une part, de punir les génocidaires, mais de punir aussi les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de quel camp ils étaient. Et peut-être même du côté gouvernemental, ce qui pose problème. Et d'une certaine manière, ce deuxième mandat n'a jamais été accompli par le tribunal d'Arusha.
Et là, tout à l'heure, là, juste à côté d'ici, dans l'église justement où tout s'est passé, l'église, vous habitez à 500 mètres de cette église-là, des lieux de tout ce massacre, il y avait une gachacha, c'est-à-dire un tribunal populaire, une espèce de séance de parole où les uns et les autres racontent, les uns et les autres accusent. Est-ce que vous y croyez à ça? Est-ce que c'est un espoir justement pour se reconstruire?
Vous avez vu gachacha,
si gachacha pouvait fonctionner comme c'était convenu. En fait, ça ne se passe pas comme c'était convenu. Tous ces bourreaux. S'il pouvait dire la vérité, s'il pouvait dire ce qui s'est passé. Mais s'il venait, s'il disait la vérité, si c'était vraiment une très bonne idée, gachacha, mais il dit un centième de ce qu'il a réellement fait. Parce que moi, je l'ai vu agir. Ou alors il dit qu'il est arrivé un peu tard. Qu'il a assisté en fait.
On l'a entendu, ça à plusieurs reprises. Ou alors ils ont juste tué une personne.
Ils ne disent jamais ce qu'ils ont fait. De temps en temps, c'est rare, mais il arrive que quelqu'un dise la vérité. Il dit tout ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, je me sens reposé. Je ne lui en veux même plus. Quand il ment sur ce que j'ai vu, j'ai très mal au cœur. Je revis tout ça. Gachacha n'a plus de raison d'être. Et c'est ce qui se passe souvent. En fait, je suis traumatisé. Je revis tout ça. Je vis avec mes démons.
Pierre Azan, on parlait de l'Afrique du Sud. C'est à cause de ces résultats encourageants, enfin de ce mouvement encourageant de justice et de vérité, que s'est tenu en 2001 à Durban. J'aimerais qu'on parle assez longuement de ça, parce que vous y étiez, vous avez assisté, vous faites dans votre bouquin une analyse et des observations sur ce qui s'est passé en septembre 2001 à Durban. C'était une conférence organisée par les Nations Unies, avec Mary Robinson qui était la secrétaire générale de cette conférence. Et cette conférence avait une grande ambition.
Effectivement, c'était la troisième conférence des Nations Unies contre le racisme. Les deux premières avaient échoué et l'ambition des Nations Unies était enfin de réussir celle-là. Les deux premières avaient échoué notamment sur la question israélo-palestine, mais aussi du fait du climat de la guerre froide. Là, on se trouve dans l'après-guerre froide et porté en quelque sorte par l'aura de la commission Vérité sud-africaine, il y a l'idée que les Nations Unies peuvent enfin peut-être cautériser les plaies de l'esclavage en abordant franchement cette question du colonialisme et de l'esclavage.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se sont déroulées ces journées?
Écoutez, il y a eu des tensions extrêmement vives et la conférence a dérapé de multiples manières. Ce qui s'est passé d'une certaine manière, c'est que forcément, les ONG qui sont militantes par essence, par nature, ont essayé de pousser leur agenda et les États tout autant. Et donc, il y a eu très rapidement une double tension qui s'est nouée. Il y a eu une tension de nouveau entre Israël et Palestine, c'est-à-dire au moment où on a conçu l'idée de la conférence, on était en ce moment-là encore dans le processus de paix au Proche-Orient. Et puis, lorsque la conférence survient, on est au début de la deuxième intifada. Les images qui sont retransmises par les télévisions du monde entier sur la deuxième intifada cristallisent les passions. Et de nouveau, on se trouve dans un affrontement victimaire entre l'État d'Israël et les quelques organisations juives, les ONG arabo-islamique. Et effectivement, ça dégénère très très vite. Ça dégénère très très vite au point effectivement où Israël sera condamné dans la conférence des ONG, je dis bien des ONG, comme un État qui est responsable de crimes contre l'humanité, etc. etc.
Oui, c'est quand même la déclaration finale des ONG, il faut bien préciser, c'est pas la déclaration finale des Nations Unies, mais la déclaration finale des ONG, je cite, c'est Israël est condamné donc par ces ONG comme un État raciste, coupable de perpétuer des actes de génocide, des crimes de guerre et de se livrer à des opérations de nettoyage ethnique. Fin de citation. On peut imaginer la réaction des Israéliens.
Totalement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce langage complètement enflammé, excessif, sans doute satisfait dans le monde arabe et dans le monde islamique, mais en fait, il est terriblement contre-productif. Terriblement contre-productif, ça va crisper les Occidentaux, et notamment dans la deuxième conférence qui suit immédiatement, la conférence en quelque sorte de lancement qui était celle des ONG, la conférence intergouvernementale. Et très vite, effectivement, les fronts vont se tendre, et les États-Unis et Israël vont claquer la porte, et les Européens vont menacer de faire de même si ce langage complètement inflammatoire ne sera pas enlevé. Et ça finit effectivement dans une sorte de surenchère victimaire qui était terriblement contre-productive et qui a foncièrement nui aux Nations Unies.
Dès le premier jour, la conférence de Durban semblait mal partie. La grand-messe contre le racisme et la xénophobie s'est résumée à ce face-à-face où des manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens s'invectivent. Pas surprenant donc qu'après 4 jours, le sommet soit dans l'impasse. Hier, les États-Unis et Israël ont claqué la porte. Motif, les termes détestables utilisés selon les deux délégations à l'égard de l'État hébreu dans le projet de déclaration finale du sommet.
Alors, on continue avec cette histoire de la justice transitionnelle, c'est-à-dire le moment où on se dit comment gérer les crimes de masse, comment canaliser les violences, comment éviter aussi les revanches, comment éviter le talion. Hein, on pourra citer à nouveau l'exemple du Rwanda, mais vous nous attirez sur un conflit assez peu connu celui-là, en Ouganda, où la Cour pénale internationale va essayer, mais là c'est en temps de guerre, hein, va essayer en temps de guerre de s'affronter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec un groupe particulièrement monstrueux, on peut dire les choses comme ça, qui s'appelle la Résistance Armée du Seigneur, dont le leader est Joseph Kony, Lord's Resistance Army, et qui depuis des années ensanglante complètement ce pays. Et là, la Cour pénale internationale va essayer d'intervenir.
Oui, il y a effectivement une des guérillas les plus sanglantes du monde, dirigée par un chef charismatique qui veut instaurer, qui a des visions divines et qui veut instaurer les 10 commandements dans son pays. C'est donc Joseph Kony dont vous parliez à l'instant. Et cet homme et son armée, l'armée du Seigneur, disons, ont recruté des dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents et ils les ont utilisés comme de la chair à canon. Ils les ont kidnappés et ils les ont utilisés à la fois comme esclaves sexuels, ils les ont utilisés comme soldats. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable, sur lequel, je veux dire, tout le monde, je crois, est plus ou moins d'accord. La Cour pénale internationale, qui se trouve extrêmement critiquée parce que les Américains ne veulent pas la soutenir, donc le procureur se dit, effectivement, en inculpant Joseph Kony et les principaux chefs de cette armée du Seigneur, eh bien, nous tenons là des vrais barbares. Et donc, la Cour pénale internationale, qui a besoin de crédibilité pour lancer ses premières inculpations, va inculper Joseph Kony. Alors, très vite, il va se passer quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire que, d'un côté, Le gouvernement ougandais est très très content de cette inculpation parce que ça fait son jeu finalement. Puisqu'il criminalise l'ennemi, il l'affaiblit, il lui enlève tout soutien. Et ce qui se passe, c'est que Joseph Kony et les siens, sentant un peu la pression internationale se mettre sur eux, commencent à vouloir négocier un peu plus sérieusement qu'ils l'avaient fait par le passé. Et donc on va se trouver dans une sorte de tension entre... Faut-il la paix, faut-il la justice? Et le gouvernement ougandais qui voulait tellement cette inculpation, au moment où il sent qu'il approche peut-être d'un traité de paix et d'une démilitarisation de cette armée, est beaucoup moins intéressé par ce processus judiciaire. Finalement, il voulait l'utiliser comme une épée de Damoclès pour faire peur à Joseph Kony et à cette armée du Seigneur.
Est-ce que la Cour pénale internationale pourrait se pencher sur le cas de l'Irak, par exemple, en poursuivant de la même façon les initiateurs de l'offensive américaine en Irak? Noam Chomsky cite les conclusions du tribunal de Nuremberg. On a commencé par parler de ça tout à l'heure. Et il cite l'une des conclusions du tribunal de Nuremberg qui dit « Mener une guerre d'agression est le crime de guerre suprême ». Qui diffère des autres crimes en ce qu'il comprend tous les mots qui s'en suivent. Fin de citation. Donc, dit Chomsky, selon cette conclusion du tribunal de Nuremberg, Bush, Rumsfeld, Wolfowitz, Rice, etc., devraient être présentés devant un tribunal semblable à celui de Nuremberg, et bien, par exemple la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Parce qu'évidemment, aller dans un petit coin d'Afrique atroce, comme vous venez de le dire, c'est on va donner des leçons. Il y a quelque chose de colonisateur là-dedans. Je pense que les autorités régionales n'ont pas manqué de dire, mais qu'est-ce que vous venez faire? Encore les colons vous revoilà. C'est votre justice à vous, c'est pas la nôtre.
Effectivement, mais disons, pour parler, pour donner une réponse tout à fait circonstanciée sur la Cour pénale internationale, force est de reconnaître qu'elle n'est pas compétente, puisque il faudrait que soit les États-Unis, soit l'Irak aient reconnu et ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, ce que les deux se sont bien gardés de faire. Autrement, il faudrait que le Conseil de sécurité... décide de déférer cette situation devant la Cour pénale internationale. Et on peut imaginer, avec le veto américain, que c'est totalement impossible.
Alors, bilan provisoire hein, de cette justice transitionnelle que vous faites commencer en 89, que vous ne faites pas finir en 2001, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est fermé là en 2001 quand même.
Si vous voulez, il y avait une énorme vague, une énorme mobilisation jusqu'à 2001. Les attentats contre les tours jumelles de New York, la guerre contre la terreur, a changé le paradigme. D'un paradigme, en gros, d'un progrès moral des sociétés, on est passé au paradigme sécuritaire. Et c'est vrai que d'un coup, effectivement, cette utopie en a pris...
un coup dans l'aile.
Un coup dans l'aile, exactement.
Alors, conclusion?
Conclusion, ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de ce coup dans l'aile, les choses continuent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une commission vérité qui est en train de difficilement se mettre en place au Libéria, qu'en Uruguay, pour la première fois, il est question de revenir sur la loi d'amnistie pendant la période de la dictature, qu'il y a quelque chose d'extrêmement encourageant qui est en train de se passer entre les parquets serbes et croates dans l'ex-Yougoslavie qui collaborent ensemble pour faire la lumière sur des crimes qui sont commis dans un camp ou dans l'autre. Donc, si vous voulez, il se passe énormément de choses aujourd'hui qui n'atteint pas peut-être le même degré de visibilité qu'il y a 10 ans, mais en même temps, les choses ponctuellement avancent.
C'était une nouvelle diffusion de l'entretien de Daniel Mermet avec Pierre Razan le 26 septembre 2007. Vous pouvez lire son ouvrage « Juger la guerre, juger l'histoire » aux éditions Presse Universitaire de France. À la technique, Jean-Philippe Jeanne et Alain Amstam, à la réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutard assistés de Charlotte Perry, Agnès Le Bot attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.